les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La fraternité, ça viendra un peu plus tard, c'est dans les années 1790 que ça a été rajouté. Les trois principes clés de la République française, liberté, égalité, fraternité. Nous avons la chance de vivre dans un pays libre. Vous remarquez que la liberté, c'est le principe qui a été mis en premier. Liberté. Et c'est vrai que nous vivons dans un pays libre. Nous avons la liberté de penser ce que nous voulons, la liberté de culte, la liberté de nous déplacer, la liberté de nous exprimer, la liberté de la presse, etc., etc. Après, est-ce que la République est égalitaire et fraternelle? Je vous laisse en juger par vous-même, c'est pas moi qui vous le dirai. La liberté, dans le sens de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça a une signification particulière. La liberté, dans ce sens, c'est la faculté pour un citoyen de faire tout ce qui n'est pas contraire à la loi du pays et qui ne nuit pas à un autre citoyen. Cet après-midi, je ne vais pas vous faire un cours d'instruction civique et on va s'arrêter là. Mais je voudrais qu'on s'arrête sur le principe de liberté. Nous allons traiter de la liberté cet après-midi. J'ai ouvert mon Larousse et j'ai noté les deux définitions de la liberté. La liberté, c'est l'état d'une personne qui n'est pas soumise à la servitude. La liberté, c'est l'état d'un être qui n'est pas retenu prisonnier. Voilà ce que c'est la liberté, dans un sens un peu plus large que celle de la devise de notre République. Alors je vous invite à venir faire une lecture avec moi dans le livre des Actes, au chapitre 12, au verset 1. Actes, chapitre 12, verset 1. Il s'agit d'un homme, Pierre, qui a perdu sa liberté. En ce temps-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, et l'Église adressait pour lui d'ardentes prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il s'imaginait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Amen. Pas de liberté de culte à l'époque. Pas de liberté d'être défendu par un avocat, d'être jugé, d'avoir la présomption d'innocence. Pierre est emprisonné sans autre forme de procès parce que croire en Jésus, ça gênait les Juifs de l'époque. Alors Pierre est arrêté, et sans doute le projet d'Hérode est de le faire tuer, de le faire exécuter. Pierre est jeté en prison, il est placé sous la garde de 16 soldats. Quel dangereux criminel! 16 soldats pour un seul homme, 4 escouades de 4 soldats. Alors les compagnies sont divisées en escouades. Et une escouade, c'est... bon là, elle faisait 4 soldats, l'escouade. C'est 3 soldats et un petit chef. 4 escouades de 4 soldats. La nuit de son évasion, nous dit la Bible, en plus d'être emprisonné, il est enchaîné et il dort entre 2 soldats. Vous avez vraiment peur qu'il se sauve, hein ? Incroyable quand même. Je ne sais pas ce qu'il craignait, mais il ne fallait vraiment pas qu'il s'échappe. Pierre, voilà un homme qui a perdu sa liberté de mouvement. Alors, il n'a pas perdu sa liberté de pensée, peut-être pas sa liberté de parole, hein, peut-être qu'il en a dit quelques-unes à ceux qui venaient l'arrêter et à ceux qui le gardaient. Mais néanmoins, il est emprisonné. Il lui est empêché de se rendre où il veut, de continuer à proclamer l'Évangile, à parler de Jésus autour de lui. Il est emprisonné. Et voici que le Seigneur intervient. Jésus intervient et il envoie un ange. Et alors que se passe-t-il ? Les chaînes tombent de ses poignets. Il va prendre ses sandales, mettre sa ceinture à ses reins, mettre son manteau. Les 2 gardes qui étaient avec lui, ils s'aperçoivent de rien. Il va passer la première garde. La deuxième garde, la porte qui fermait, qui séparait la prison de la ville, une porte en fer, va s'ouvrir d'elle-même. Ils n'ont même pas besoin de crocheter la serrure. Non, rien. Tout se fait dans le plus grand calme, le plus grand silence. Et voici que Pierre se retrouve dans la rue, tranquillement. Personne n'a été blessé, personne n'a été réveillé. Personne ne s'est précipité, il a son manteau, sa ceinture, ses sandales, il est libre. Il est complètement libre. Miracle, c'est un miracle. C'est quelque chose de complètement incroyable et inconcevable. Tellement que lui-même, pendant que ça lui arrive, il se demande s'il n'est pas en train de rêver. Parce qu'il a bien conscience que ce qui se passe, c'est complètement impossible et improbable. Peut-être qu'il a dit à l'ange, pince-moi, je rêve là, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas possible. Pierre est libéré, Jésus a libéré Pierre. L'intervention de Jésus, l'intervention du Seigneur a tout changé. Alors moi, j'aurais pas aimé être à la place des gardes le lendemain matin. Parce que quand ils ont dû expliquer ça à leur capitaine ou à Hérode, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, mais ils ont dû passer un sale moment, hein. Puis surtout, je sais pas comment ils ont pas pu l'expliquer, c'est sûr. Hein. Donc je pense qu'Hérode les a pas cru, quoi. Certainement, il a cru qu'ils avaient aidé Pierre à le faire partir. Enfin, peu importe. L'intervention de Jésus a libéré Pierre. Voilà donc l'exemple d'un homme emprisonné, enchaîné, qui est libéré par Jésus. Lisons un deuxième récit, s'il vous plaît. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 5. Marc, chapitre 5, verset 1. Nous allons voir là un autre type de prison, un autre exemple d'emprisonnement. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Géraséniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était possédé d'un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. Car souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte : « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait : « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda : « Quel est ton nom ? » ?»« Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, » répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. les démons le supplièrent : « Envoie-nous dans ces ports, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les ports, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 ports, et ils se noyèrent dans le lac. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Amen. Cet homme est possédé de plusieurs démons qui le font agir comme un animal, qui le font vivre comme un animal et se meurtrir le corps. Cet homme est là, hurlant, criant dans la montagne, vivant dans les, parmi les morts. Certainement, il était nu. Et il se fait du mal à lui-même, avec des pierres. Et pourtant, personne ne peut l'enchaîner. Personne ne peut lui mettre les ceps aux pieds. Ils y sont arrivés quelques fois, mais à chaque fois, il est tellement fort à cause des démons qu'il possède, qu'il va casser les ceps de ses pieds, qu'il va rompre ses chaînes. Pourtant, quand on est fort, quand on est incapable de nous enchaîner, ça nous fait penser à la liberté, ça, non ? Personne ne pouvait le retenir quelque part. Il était capable de se libérer toujours. Mais non, cet homme n'est pas libre. Il n'est plus maître de son corps. Il n'est plus maître de son esprit, de ses pensées, de ses actions. Il est l'esclave du mal qui a pris possession de lui. Il est l'esclave des démons qui l'habitent. Et là encore, Jésus intervient et libère cet homme. Jésus va chasser les démons qui le contrôlent. 2000 cochons à l'eau. On n'imagine pas un troupeau de 2000 cochons. Moi, j'ai de 2000 porcs, j'ai jamais vu ça. Des troupeaux d'une centaine de bêtes. Ouais, mais alors 2000 cochons qui se jettent du haut d'une falaise dans le lac. Ça a dû être quelque chose à voir, hein. Quelque chose à entendre aussi, hein. Puis alors les pauvres bergers, enfin non, ce n'est pas des bergers puisque ce n'était pas des moutons, mais les pauvres gardiens du troupeau, quand ils sont allés dire ça aux propriétaires dans la ville, ben ça y est, les cochons, hein, ils sont dans le lac. Ah, ils n'étaient pas contents, hein, d'ailleurs, ils ont demandé à Jésus d'aller voir plus loin, hein. Ils n'étaient pas contents, ils avaient perdu leurs 2000 cochons. Ouais, 2000 cochons à l'eau, mais un démoniaque assis, vêtu et dans son bon sens. Quel miracle, quelle délivrance, quelle libération d'un pauvre être humain, esclave du mal. Jésus est le Fils de Dieu. Et à ce titre, il est le seul capable de libérer. Jésus est le Fils de Dieu. Ce qu'il a fait pour Pierre, ce qu'il a fait pour le Gérasénien, personne d'autre que lui ne pouvait le faire. C'était absolument hors de la portée de quiconque à part de Jésus. Jésus peut rendre la liberté. Je vais faire une petite lecture dans Luc. Au chapitre 4, au verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre pour proclamer aux prisonniers la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Alors cet après-midi, vous pouvez me dire, ouais, c'est très bien, mais moi, je ne suis ni en prison, ni possédée par des esprits impurs. Et merci. Je vous le souhaite. Alors, en quoi est-ce que ce que tu nous racontes, cela me concerne ? Vous allez me dire, moi, je ne suis prisonnier de rien. Je n'ai pas besoin de délivrance. Et pourtant, si, l'homme est esclave. Alors, pas, il n'est pas lié par Hérode, il n'est pas forcément lié par des démons. Mais l'homme est prisonnier de ses désirs. L'homme est prisonnier de ses passions, en un mot, du péché. L'homme est prisonnier du péché. Jésus est venu pour libérer les hommes du péché et du pouvoir de Satan. C'est pour ça que Jésus est venu, parce qu'il est le seul à pouvoir libérer l'homme de cette servitude qui le conduit au malheur et à la mort. Examinons un peu la société qui nous entoure et les gens qui vivent autour de nous. Il y a des gens très bien qui vivent autour de nous. Il y a des gens très mauvais qui vivent autour de nous, à des degrés plus ou moins divers. Mais combien sont prisonniers ? Prisonniers de quoi ? De la cigarette ? De la drogue ? De l'alcool ? Du sport ? Des copains ? Du jeu ? Des réseaux sociaux ? D'Internet, de la télévision, des sorties. Combien sont prisonniers de la violence, de la violence des actes, de la violence des paroles, prisonniers du qu'en dira-t-on, prisonniers d'une recherche de reconnaissance. Combien sont prisonniers de leurs désirs, vont tromper leur femme, tromper leur mari, vont avoir des relations homosexuelles, prisonniers de notre désir. L'ambition, l'amour de l'argent, le désir de reconnaissance, de réussite sociale, tout ça, ça va nous entraîner à faire des choses mauvaises, à écraser les autres, à être malhonnête. Et tout cela a des conséquences dramatiques. Des conséquences dramatiques pour notre corps, pour le corps de l'homme, pour la famille et du coup pour la société d'une manière générale. La société française ne va pas bien. Le monde ne va pas bien. Parce que c'est le péché qui dirige les actions des hommes. Si le monde ne va pas bien, ce n'est pas parce que Dieu est inactif. Si le monde ne va pas bien, ce n'est pas parce que Dieu est impuissant. Si le monde ne va pas bien, c'est parce que l'homme qui est libre laisse le péché le diriger, le conduire, lui dicter ses actes. Voilà pourquoi le monde ne va pas bien. La Bible dit que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Ne vous mentez pas à vous-même. Si je pratique le péché, j'en suis esclave. Ne pensez pas que vous contrôlez quelque chose. Non, c'est lui qui vous contrôle. Ce n'est pas vous qui contrôlez vos actions. C'est le péché qui contrôle l'homme. Sans l'intervention de Jésus, nous sommes tous esclaves et prisonniers du péché. Sans l'intervention de Jésus, Pierre serait resté prisonnier d'Hérode et certainement au petit matin, il aurait été exécuté. Sans l'intervention de Jésus, cet homme possédé aurait terminé sa vie sous l'emprise de ses plusieurs démons. Il aurait continué à sauter dans la colline, à se meurtrir. L'intervention de Jésus, voilà la seule chose qui peut libérer l'homme du péché. Je vous invite à faire encore une lecture avec moi dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, au verset 31. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libre ?» en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. Le fils y reste pour toujours. » Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Alors ici, je ne sais pas s'il y a des Juifs, mais personne ne peut dire, peut-être que vous ne le direz pas, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Mais peut-être que vous allez me dire, mais moi je suis citoyen français, héritier des Lumières, lecteur de... grand philosophe, je suis instruit, cultivé, j'ai une façon de penser, j'ai une idée sur le monde, sur la création du monde, sur l'origine du monde, pardon, parce qu'il peut avoir une idée sur la création du monde. J'ai une idée sur l'origine du monde, sur l'avenir de l'humanité. Comment ? Je fais ce qui me plaît, mais je fais ce qui me plaît. Comment tu peux me dire, crois en Jésus et tu deviendras libre ? Je suis libre. Je fais ce qui me plaît. Non, tu es esclave du péché. Tu ne fais pas ce qui te plaît. Ce n'est pas vrai. Si Jésus nous libère, est-ce que nous sommes la liberté selon Dieu ? Est-ce que c'est faire tout ce qui nous passe par la tête ? Est-ce que c'est faire tout ce que nous avons envie, tout ce que nous désirons faire? Certainement pas. Certainement pas. Et pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui veut nous réprimer, qui veut nous faire sentir sur nos épaules un joug pesant. Non, pas du tout. 1 Corinthiens 10, 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. La liberté qui vient de Christ, c'est la libération de l'esclavage du péché et aussi de sa condamnation. Parce que tous ont péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Il y a une condamnation qui va avec le péché. Jésus est mort sur la croix pour régler le problème de la condamnation du péché et pour que nous ne soyons plus sous la servitude du péché, mais que nous en soyons libérés pour que nous ne pratiquions plus le péché. Vous n'allez pas devenir parfait du jour au lendemain quand vous allez donner votre vie à Dieu. Hein. On est d'accord. Hein. Vous allez faire des progrès. Mais c'est sûr que vous n'allez plus pratiquer le péché, parce que Dieu va vous libérer. Alors vous allez toujours pécher, mais de façon accidentelle, et vous allez le regretter quand ça va vous arriver. C'est ça la différence entre la pratique du péché avant Jésus et le péché que nous continuons de commettre lorsque nous lui appartenons, parce que nous ne sommes pas parfaits et que nous ne le serons qu'au ciel. Romains chapitre 6, verset 10. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi considérez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vivre pour Dieu. Libérés de nos péchés, nous allons pouvoir faire ce qui est agréable à Dieu. Nous allons pouvoir mener la vie que Dieu a prévue pour l'homme. Sincèrement, vous pensez que ce que Dieu avait prévu pour ce démoniaque, c'était d'être nu, de sauter dans la montagne? de se meurtrir le corps. C'est ça la liberté? Vous pensez que ce qu'a prévu Dieu pour l'homme, c'est d'aller voir les prostituées, c'est de dilapider tout son argent au jeu, c'est de passer sa vie avec les copains dans les bistrots à boire au lieu de s'occuper de ses enfants? Vous pensez que c'est ça que Dieu a prévu pour l'homme? C'est ça la liberté? Non, c'est pas ça la liberté. Ça, c'est l'esclavage du péché. Ça, c'est le travail du diable qui sait très bien qu'en faisant faire cela à l'homme, il détruit l'homme, il détruit son corps, il détruit sa famille, il détruit son bonheur. C'est pas ça la liberté. C'est pas ça la liberté. Jésus peut vous libérer de ce qui vous rend captif. Parce que est-ce que Pierre avait la capacité de se libérer? Non. Est-ce que le démoniaque avait la capacité de se libérer? Non. Est-ce que j'ai la capacité de me libérer de ce qui me rend captif? Non. Est-ce que vous avez la capacité de vous libérer de ce qui vous rend captif? Non. Seul Jésus en a le pouvoir et la capacité. Si vous voulez être libre, il faut accepter Jésus. Il faut accepter que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur terre par amour pour vous. Et qu'il est mort pour vos péchés, et qu'il est ressuscité pour vous préparer une place dans le ciel. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Un seul est mort sur la croix par amour pour vous. Un seul, c'est Jésus. Le Fils de Dieu. Il n'y a donc, Romains 8.1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas selon leur nature propre, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Parce que qu'est-ce qui attend une vie de péché, in fine, au bout? Ben c'est la mort. Rien d'autre. La mort et la mort éternelle. Seul Jésus a le pouvoir de vous dire libéré. Libéré. Non coupable. Libéré. J'ai payé. Et personne ne peut rien redire à cela. Le diable ne peut pas ouvrir sa bouche. Jésus est mort et il est ressuscité. Et le diable a vu que Jésus était mort et ressuscité. Le diable a vu que l'agneau de Dieu a versé son sang pour celui qui l'accepte. Libéré, libéré, non coupable. Voilà ce que peut dire Jésus si nous le laissons faire. Alors je ne sais pas de quoi vous êtes esclave cet après-midi, de vos ambitions, de l'argent, de la réussite sociale, d'une passion. Mais c'est la mort éternelle qui vous attend. C'est la vérité. C'est la vérité. Jésus peut et veut vous libérer. Alors cet après-midi, Jésus veut que vous le laissiez diriger votre vie. Il vous le demande. Laisse-moi diriger ta vie. Laisse-moi te rendre libre. Matthieu chapitre 11, versets 29 et 30. N'ayez pas peur de donner votre vie à Dieu. Ne craignez pas que ce soit au-delà de vos forces, que ce qu'il vous demande soit trop difficile. Ce qui était difficile, c'est lui qui l'a fait. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Ne craignez pas. Ne craignez pas. La vie que Dieu vous réserve est excellente. Le joug qu'il va faire peser sur vos épaules est bénéfique pour votre vie ici-bas. Et cela va vous conduire à la vie éternelle. Remettez votre vie entre les mains de Dieu sans crainte. Jésus peut vous rendre libre. Il faut juste que vous l'acceptiez. Il faut que vous acceptiez que ce soit lui qui règne dans votre vie et sur vos actions. Amen.